Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer. Et la flemme de dire toute l'intro, de toute façon, si vous êtes, si vous en êtes là, c'est que vous la connaissez déjà assez. Donc, tu préfères la dire, Guillaume, mais...
Tu veux que je la fasse?
Allons-y.
Le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler.
Oui, je crois que c'est ça.
Oui, je crois que c'est ça. Parce que j'ai commencé par le podcast.
Ouais, il y a une petite hésitation.
Mais... en fait, c'est là que tu te rends compte que... Tu sais, genre, il y a plusieurs types de mémoire. T'as Là, c'est de la mémoire procédurale. Tu sais, tu commences la première phrase et t'as tout le reste qui découle. Et là, vu que j'ai commencé au milieu, j'ai bugué.
Ah ouais, peut-être c'est ça. Hein.
C'est ça, parce que j'ai commencé au milieu de...
De la
j'ai
phrase.
J'ai pas commencé par bienvenue.
Ah, peut-être qu'on devrait se partager l'intro aussi.
Ouais, on fera ça un jour. Alors, quoi de neuf?
Eh bien. Pour que les auditeurs soient au courant, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré d'épisode.
Bah, c'était les grandes vacances, quoi.
Ouais. Les grandes vacances 2021, pour ceux qui nous écouteraient en 2025, soit l'année de la sortie de The Winds of Winter.
L'épisode sera sorti depuis bien longtemps.
Et oui, mais tu sais, pour ceux qui nous écouteraient en retard, tu vois.
Ah oui.
Donc, franchement, ça fait étrange parce que en reprenant le podcast, j'avais peur d'avoir oublié pas mal de trucs. Parce que franchement, après 2 mois sans tourner, j'ai l'impression que, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont évaporés de ma tête. Je sais pas pour toi.
Moi, je suis un insouciant. Je vais là où le vent m'emmène.
À la one again. Donc voilà, donc j'espère que...
De toute façon, le public est là pour mes réactions à chaud. Ils auront des réactions à chaud, je te dis.
Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs de notre côté par rapport aux différents éléments. Le temps de se remettre dans le bain, de reprendre les enregistrements à un bon rythme. Mais voilà, avec nos notes, on devrait s'en sortir. Voilà, enfin si, on a enregistré un épisode du Chevalier Errant entre-temps. Que vous avez déjà dû écouter si vous êtes notre chapitre 3 de Clash of Kings. Mais voilà, donc pour la saga principale, on vient de reprendre, donc excusez-nous s'il y a quelques petites lacunes. Alors, donc oui, je ne l'ai pas dit, mais on se retrouve pour le chapitre 3, donc le premier chapitre de Tyrion, hein, de Clash of Kings. Mais avant de commencer ce chapitre, j'aimerais revenir sur les notes que j'y avais écrites avant que Guillaume et moi ne partions en vacances. Bon, ça fait, comme je vous l'ai dit, ça faisait longtemps qu'on n'est pas revenu sur le Trône de Fer, donc j'ai dû relire quelques passages avant de comprendre ce que j'avais écrit, tellement l'histoire est complexe. Premièrement, je me suis demandé, voilà, Guillaume, ça tu t'apprends à s'en souvenir, hein, mais du coup, dans mes notes, j'avais écrit que je m'étais demandé si Balon Swan n'était pas gardé en otage à la cour de Port-Réal. Alors, en effet, on sait que les Swan sont des bannerets des Baratheon, et on sait, de par le prélude, que Stannis avait envoyé Sir Davos convaincre les seigneurs des Terres de l'Orage, donc des Baratheons, de se joindre à la cause de Stannis, dont Lord Julian Swan, actuel Lord Pierre Home, chef de la maison Swan, et père de Balon Swan. Donc Balon Swan, je rappelle, il est à la cour de Port-Réal, et comme on l'a vu dans le chapitre précédent de Sansa, par exemple, les jumeaux Horace et Aubert Redwine, donc les fils de Pacter Redwine, le Sire de la Treille, sont gardés en otage. Donc peut-être que c'est aussi le cas pour Balon Swan, en attendant que leur père respectif vienne jurer fidélité à Geoffrey. Deuxièmement, je voulais préciser, et ça c'est vraiment une erreur de ma part, je voulais préciser qu'on avait déjà vu Sir Dontos Hollard apparu dans le chapitre précédent de Sansa. Pour rappel, celui-ci était un ivrogne connu qui est arrivé bourré à l'anniversaire de Geoffrey, et Sansa fut assez subtile pour le sauver de la mort suite au courroux de Geoffrey. Sa punition fut alors de ne plus être chevalier, mais d'être à présent un des bouffons du roi en compagnie de Lunarion. Et bref, j'avais pas précisé que ce personnage était apparu lors du premier tome, toujours en tant qu'un ivrogne connu, et c'était le seul qui voulait parler à Sansa après l'emprisonnement d'Eddard Stark en tant que traître à la couronne, et c'est justement Sir Balon Swan qui l'en a empêché. Troisièmement et dernier point, c'est vraiment du chocolatage, mais en fait, on a appris dans le premier chapitre d'Arya de Clash of Kings qu'elle se faisait, tu serais pas elle, Guillaume, Arya Ganache à Winterfell. Et tu sais, Guillaume, moi je vais vite dans mes notes, hein, mais tout au moins, on avait parlé des trois définitions en français de Ganache. Donc c'était soit une personne incapable ou sans intelligence, soit la partie postérieure de la mâchoire inférieure du cheval, soit une crème à base de chocolat fondu et de crème fraîche. Et en lisant le texte en VO, à la suite de l'enregistrement de l'épisode, j'ai vu que le mot original était horse face, donc littéralement tête de cheval, ce qui se rapporterait donc plus à la mâchoire du cheval. Mais du coup, je sais pas si ça a été fait exprès ou non, mais je trouve que la traduction est géniale, vu que le terme de personne incapable ou sans intelligence pourrait aussi se rapporter à Arya. D'autant plus que, du coup, dernière petite information par rapport au surnom, en fait, la première fois dont il est fait mention, c'est dans le tout premier chapitre de Arya, dans JOT, et je l'avais totalement oublié, enfin, je l'avais pas noté du tout, et on apprend que c'est Jane Poole qui a donné ce surnom de Arya Ganache, dû à Arya, dû à sa longue figure et solennelle. Donc voilà, donc c'est vraiment des détails dont on se fout complètement, mais c'est pour ce genre de détails que, bon, le Trône de Fer, c'est ma saga préférée, et que j'ai décidé de lancer ce podcast, parce que, en fait, ça rend le tout tellement cohérent, l'univers tellement palpable, que ce soit pour des détails mineurs comme celui-ci, ou pour des détails dont l'importance peut se révéler majeure sans qu'on se rende compte directement. Voilà, voilà. Bref, après cette longue introduction, on peut commencer le chapitre.
Ok, on commence par un petit résumé du chapitre. Donc, dans ce chapitre, on va retrouver Tyrion, qui a enfin rejoint Port-Réal après avoir reçu l'ordre de son père de siéger au conseil en tant que main du roi jusqu'à son retour. Et la nouvelle est difficilement accueillie par Cersei, mais Tyrion va arriver à la convaincre qu'il fera tout pour que Jaime revienne sain et sauf à Port-Réal. Il se rendra ensuite à l'enclume brisée, et en fait, c'est là où il a décidé de loger Shae en dehors de la cour, et elle sera sous la garde de Shayla. Et contre toute attente, quand Tyrion se rend à l'enclume brisée, c'est Varys qui sera là pour l'accueillir. Tout ceci pour passer un message, pour lui faire comprendre que rien n'échappe à Varys.
Rien n'échappe à Varys.
Rien n'échappe à Varys.
J'aimerais avoir un mème, tu vois, avec la tête de Varys. En gros, rien n'échappe à Varys. Avec les lunettes, c'est les lunettes de... Comment ça s'appelle encore le mème? Le truc de Smoke Will I Would I. C'est les lunettes...
Ah, Tag Life.
Ouais. Bref. Merci, Guillaume, pour ce résumé. Le chapitre débute avec Tyrion voulant participer à la réunion du conseil restreint, mais Mandon Moore, le garde royal, bloquait l'accès de la salle à Tyrion. Donc dans le chapitre, Mandon Moore est décrit par Tyrion avec l'apparence d'un cadavre dans son linceul, et c'est marrant parce que dans le chapitre précédent, Sansa nous expliquait que ses étranges yeux morts la mettaient mal à l'aise. Donc bon, le champ lexical associé à ce garde royal n'est pas très joyeux.
Le champ lexical du cadavre.
Ouais. De plus, Tyrion se souvient que, d'après Jaime, Mandon Moore était l'homme le plus dangereux de la garde royale, après lui, naturellement, car jamais son visage ne trahissait ce qu'allait être sa réaction. Donc, le champ lexical du cadavre, ok, mais en fait, ça allait être un mec assez... Tu sais, ça me fait penser, tu vois, à une sorte de serpent, tu vois. Tu sais, ceux qui paraissent vides, en fait, qui bougent pas, qui ont pas de...
Les reptiles.
Ouais. Qui ont le sang-froid, tu vois. Mais littéralement le sang-froid. Au final, grâce à l'appui d'une lettre que son père Tywin Lannister avait écrite, Tyrion put entrer dans la salle. Était présent au conseil restreint Cersei, la reine régente, le grand maître Pycelle, Lord Peter Baelish ou Littlefinger, le grand argentier, Lord de Jon Ostlin, commandant du guide Port-Réal, ainsi que Varys, le maître des chuchoteurs. Cersei fut stupéfaite quand elle vit son frère entrer dans la salle. Stupéfaite et incrédule, surtout quand elle a appris le contenu de la lettre, son père, Tywin, avait envoyé son fils Tyrion le suppléer au conseil restreint en tant que main du roi, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se joindre à celui-ci. Elle est ensuite furieuse, réclamant que son père vienne en personne, qu'il lui fallait une armée, que la ville de Port-Réal était en danger suite aux menaces de Stannis et Renly, et surtout, elle ne comprenait pas comment son père avait pu nommer Tyrion son suppléant. À la vision de Littlefinger, Tyrion lui sourit, se remémorant toute l'affaire du poignard en acier valérien. William, est-ce que tu peux rappeler un peu cette affaire et justement pourquoi Tyrion sourit à Littlefinger?
Par où commencer? Donc, on se souvient que Bran a subi une tentative d'assassinat par, on va dire, un reître à qui on a donné une dague en acier valérien. Catelyn avait pris les choses en main en prenant cette dague et en l'emmenant à Port-Réal pour la faire examiner par Aaron Santagar, le maître d'armes de Port-Réal. Et avant ça, elle va être amenée à Peter Baelish par des gardes qui ont été missionnés par Peter Baelish.
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça qui se passe. Et Littlefinger lui dit bah, pas besoin d'aller chercher plus loin, cette dague m'appartient et je l'ai donnée à Tyrion lors d'un pari, pour un pari pendant un tournoi.
Mm-hmm.
Sauf que, on sait du point de vue de Tyrion que en fait, c'est pas sa dague à lui du tout, quoi.
Mm. Exactement.
Donc ça m'étonne. Et c'est de là où a commencé tout le bordel. c'est un peu le point de départ du bordel, hein.
Ouais. Quoique les Arryn avaient déjà foutu la merde un peu en disant que c'était les Lannister qui avaient tué Jon Arryn.
Ouais, genre. Mais Catelyn a kidnappé Tyrion à cause de ça.
Et moi d'ailleurs, ça m'étonne que ces retrouvailles soient si calmes parce que je m'attendais à plus, tu vois. Je m'attendais à ce que Tyrion il débarque avec Bronn. Et puis qu'il embarque Littlefinger.
Tiens.
Ouais, quoi. Je m'attendais à voir Littlefinger dans un cachot. Là, ça me paraît trop amical, en fait, comme retrouver. Alors que. Enfin, Tyrion a failli mourir à cause de cette affaire, comme tu viens de le dire. Comme Littlefinger, il doit avoir grave du pouvoir pour que Tyrion, il l'emprisonne juste comme ça, quoi. Tyrion voulut rapidement parler en privé avec sa sœur Cersei et fit sortir tous les autres participants du conseil. En partant, Littlefinger lui demanda s'il voulait qu'on lui prépare des appartements dans la citadelle de Maegor. Mais Tyrion répondit qu'il allait s'installer dans la tour de la main, malgré le sort tragique des dernières mains du roi. Alors, Guillaume, est-ce que tu as à peu près compris ce qui s'est passé par rapport à l'explication de Tyrion sur les dernières mains du roi ?
Alors, on a Eddard qui est mort.
Mmh.
On a Jon Arryn qui a été assassiné.
Mmh.
On a ensuite... on comprend que... la dernière main du roi de Aerys n'était pas Tywin, mais ça on s'en doutait un petit peu.
Ouais, donc il y a eu des mains entre quand Tywin est arrivé en tant que main du roi, et puis Jon Arryn.
Donc il y a plusieurs mains qui se sont succédées, et les deux dernières sont mortes. Les deux dernières sont... Ah, alors il y en a un qui a été brûlé, et l'autre qui est mort pendant le sac de Port-Réal.
Alors, on va partir, plutôt, ça va être plus simple, on va partir de Tywin. Après Tywin, on sait qu'il a été la main, ça a été dit dans le premier tome, hein, on sait qu'il a été la main du roi Daenerys Targaryen, le roi fou. Après Tywin, il y a eu deux mains différentes qui ont toutes les deux exercé cette fonction de main du roi, mais elles ont été, on ne sait pas pourquoi, privées de leur titre, de leur nom, et elles ont été envoyées en exil, et ces deux mains moururent en exil. Après ces deux mains, il y en a eu une autre qui exerçait la fonction de main du roi, et on sait que celle-ci, justement, a été brûlée vif. Toujours d'après Tyrion, mais la raison, c'est pas pourquoi. Après, on peut se douter que ça peut être sur ordre d'Eris, vu que bon, il était surnommé le roi fou, vu qu'on connaît le sort réservé à Rickard Stark et Brandon Stark, qu'ils ont été torturés par Eris, donc ça m'étonnerait pas que, bon, voilà. Cette main-là, ça soit justement sous le joug d'Eris qu'elle a été brûlée. Et il y a eu une main après celle-là qui n'a pu exercer que 15 jours. Et jusqu'à, bah du coup, ça serait jusqu'à la mort d'Eris Targaryen, quoi. Donc si on résume, on ne sait pas si Tywin Lannister a été la première main d'Eris Targaryen, mais en tout cas, c'est la première qui est citée par Tyrion. Après Tywin, il y a eu ces deux mains qui ont été privés de titres, noms et domaines, et qui moururent en exil ensuite. Après cette main, il y a eu celle qui a été brûlée vif, et après celle-ci, il y a eu la main qui n'a pu exercer ses fonctions qu'une quinzaine de jours. Alors, par contre, on connaît pas leur identité, il y a aucun nom qui est cité, et on ne sait pas les raisons qui ont poussé à cet exil pour les deux mains après Tywin, quoi.
Mm.
Suite à son départ, Tyrion put s'entretenir seul à seul avec Cersei. Il savait que le souhait le plus profond de sa sœur était de récupérer Jaime des mains des Stark, et Tyrion, qui on sait, Tyrion cita Jaime, se propose de l'aider. D'abord par les otages, on détenait les fils Stark. Sauf que Cersei lui avoue avoir menti quant au fait de détenir Arya. On en avait déjà parlé dans le dernier chapitre de Tyrion de AGOT. Tu te rappelles, parce que le conseil de guerre de Tywin évoquait d'échanger les filles au pluriel Stark contre Jamie, et donc que Cersei ne devait sûrement pas leur avoir dit qu'elle avait perdu Arya. Donc c'est confirmé dans ce chapitre. Cersei lui explique ensuite qu'elle ne fait pas qu'elle ne fait confiance à aucun membre du Conseil restreint, et que depuis que Joffrey s'est coiffé d'une couronne, il n'en faisait qu'à sa tête. D'ailleurs, on apprend ce qui s'est finalement passé le jour de l'exécution d'Eddard. Joffrey avait pour consigne d'épargner Eddard, afin qu'il puisse prendre le noir et partir à la garde de nuit, mais le petit roi n'en a fait qu'à sa tête, voulant rendre le spectacle plus excitant. D'ailleurs, maintenant le grand Septon est en grande colère contre la couronne, car pour lui, on y avait profané le sceptre de Baelor, alors que ce n'est pas ce qui était prévu. Tyrion apprend ensuite que c'est par Littlefinger que Jon Snow est devenu le seigneur d'Arrenhall. On avait besoin de ses manteaux d'or pour contrecarrer les plans de Ned, et donc ce marché a été arrangé. Et d'après Cersei, ils étaient tout proches de la catastrophe, mais heureusement que Sansa était venue la trouver pour lui révéler les plans de son père. Bon, ça, on en avait déjà parlé aussi, hein. D'ailleurs, c'est un truc qui n'est pas montré dans la série. Que Sansa, c'est elle qui révèle les plans de Ned à Cersei.
C'est vrai.
Et information supplémentaire, c'est Varys qui est à l'origine du renvoi de Barristan Selmy de la garde royale. En effet, Joffrey s'est trouvé un responsable à la mort de son père, entre guillemets. Son père, bon, on sait que maintenant, voilà. Et Varys lui avait susurré ce nom. Alors, on en avait déjà parlé dans le dernier chapitre de Tyrion de AGOT. Mais bon, c'est une grosse erreur d'avoir congédié Barristan. Bon, alors du coup, par rapport à ça. Du coup, ça ne savait pas du tout. Alors, pour Littlefinger et Jon Snow, on pouvait s'en douter, hein, parce que c'est Littlefinger. On sait que voilà, les manteaux d'or, il faut quelqu'un qui les paye. Je crois que c'est Annette qui a dit ça, Littlefinger. Il a dit oui, quand deux clans se battent pour machin et tout, qui les manteaux d'or écoute? Et Littlefinger a répondu, je crois que c'est celui qui les paye, genre.
Oui.
Mais par contre, pour que l'information sur laquelle Varys est celui responsable du renvoi de Barristan Selmy, ça c'est tout nouveau. Et du coup, est-ce que t'aurais une pensée par rapport à ça?
Bah, c'est très surprenant de la part d'un conseiller comme Varys de faire ça, parce que c'est complètement contre-productif.
Mm-hmm.
Et c'est Tyrion qui évoque plus tard que Barristan, il risque de se retrouver dans le camp de quelqu'un d'autre.
Mmh.
Que ce soit Renly ou que ce soit les Stark ou que ce soit n'importe qui, Barristan maintenant c'est il peut jurer fidélité à n'importe qui. Et c'est là que c'est, en tout cas on sent que Varys a des intérêts contre la couronne, visiblement, parce que ça
c'est totalement con. En plus Varys est intelligent, donc il doit le savoir que...
il le sait, bien sûr, ouais. Qu'il le sait, il est pas con.
Mais du coup, on sait pas, enfin, après, de toute façon, on va pas le répéter, hein, mais quels sont les intérêts de Varys, ça, parce que dans le chapitre où on entend discuter avec Larry Mopatis, on sent que leur intérêt, c'est de justement protéger plutôt la couronne. Ou en tout cas, de ralentir leur affaiblissement. Alors que là, ça l'accélère, plutôt.
Mais en fait, je pense que... En tout cas, je pense que Varys, il a envie d'accélérer, je sais pas, la chute de Joffrey ou quelque chose comme ça. Il n'a pas envie de voir Joffrey sur le trône. Je pense que personne n'a envie de voir Joffrey sur le trône.
Après, peut-être que la mort de Viserys, ça a changé quelque chose, hein, dans les plans de Viserys et Lerio... enfin, pardon, dans les plans de Varys et Lerio Mopatis. Parce qu'on savait qu'ils œuvraient, entre guillemets, pour que Viserys accède au trône, peut-être. Mais du coup, depuis sa mort, est-ce que ça a changé leur plan? Et du coup, pour continuer sur cette voie... d'après Tyrion, les petits gens mettaient Barristan Selmy aussi haut que Serwyn Bouclier Miroir et que le prince Aemon Chevalier Dragon, c'est-à-dire des chevaliers de grand renom. Alors, ces deux noms ont déjà été cités dans le premier tome, sauf que Serwyn Bouclier Dragon n'en avait pas parlé, mais du coup, on va le faire maintenant. C'était un chevalier de la garde royale.
Serwyn Bouclier Miroir, pas Bouclier Dragon.
Serwyn Bouclier Miroir, pardon.
Qui a été cité par Bran dans ses idoles?
Oui, oui. Mais en fait, nous, on n'en avait pas parlé dans le podcast.
Ah.
Donc c'était un chevalier de la garde royale cité par Bran, comme tu viens de le dire. Voilà, dans Bran, je crois que c'est dans le deuxième chapitre, au moment où, juste avant qu'il chope Cersei et Jaime, il cite les grands chevaliers de la garde royale qu'il prend comme exemple, et donc il cite Serwyn Bouclier Miroir. Et donc on apprend ensuite, il est cité une autre fois, dans un des chapitres de Sansa, et il aurait sauvé des géants une certaine princesse d'Erissa. Voilà, c'est les seules informations qu'on a sur lui. Quant à Aemon Chevalier Dragon, alors là, Bon, en fait, on a. Bon, alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles Guillaume, parce que en fait, c'est dans un chapitre de John, mais du coup, on doit réenregistrer parce que le son a été. Et, enfin, le son était catastrophique.
C'est vrai.
Donc, du coup, peut-être que tu te souviens pas qu'on a parlé de lui.
Alors,
Tout ce qu'on a dit sur lui, en tout cas.
bah, je me souviens qu'il était chevalier de la garde royale d'Aegon IV,
Ouais.
et que en gros il était amoureux de la femme de Aegon IV, un truc comme ça. Qu'il y avait pas une relation amoureuse entre les deux.
Alors justement, c'est ça le truc. C'est que... Bon, alors tu viens de le dire, alors que je lui mets note, hein, pour pas... Donc c'était, un, comme tu l'as dit, un chevalier de la garde royale d'Aegon IV, ou Aegon l'Indigne. En fait, on sait qu'il s'est porté champion pour la reine Nerys, la femme d'Aegon IV, mais aussi sa sœur. Parce que du coup, Aemon Cheveux-Dragon, c'était le frère d'Aegon IV, et Aegon IV s'était marié avec sa sœur, la princesse Nerys. Donc en fait, les trois, ils étaient frères et sœurs, tu vois.
Ça, c'est des trucs de Targaryen, ça. Ça, c'est des
Ouais.
bails de Targaryen, ça.
Exactement. Et donc, Aemon Cheveux-Dragon serait porté champion pour sa sœur Nerys, car un certain Morgil aurait raconté des mensonges sur elle. Alors, quel mensonge, ça, on n'en sait rien. Enfin, voilà, les circonstances, on n'en sait rien, mais on sait juste cette information. Et c'est d'ailleurs après lui que le Maestremon a été nommé. C'est le roi d'Eron II, qui, en l'honneur de... du coup, c'est son... d'Eron II, que je dise pas de conneries... En l'honneur de son oncle. Parce que Daeron II, c'est le fils d'Aegon IV. Enfin, alors, là, ça va rentrer dans un truc un peu compliqué. En gros, on sait pas trop si Daeron II, tu sais, c'est le roi qui règne justement pendant l'histoire du chevalier de Dunk, enfin du chevalier Erron, c'est lui qui est le roi régnant à cette époque-là.
D'accord.
Et c'est celui qui a conquis Dorne, là, par le mariage. Et en fait, on sait pas si Daeron II, c'est le fils de Aegon IV ou de Aemon Chevalier Dragon. En fait, certains disent que justement Aemon Chevalier Dragon et la reine Nerys étaient voilà amoureux et donc de cet amour serait né Daeron II. Mais ça peut aussi être le vrai fils de Aegon IV. J'ai noté dans mes notes que si vous n'êtes pas de cette histoire et que vous êtes curieux, on n'allait pas la restituer maintenant, même si on vient de le faire. Parce que c'est pas un déchet central du chapitre, mais si vous êtes vraiment curieux, on vous invite à réécouter l'épisode concernant le chapitre 60, soit John 8 de AGOT. Et voilà, tu vois, on a tellement pris du galon dans le podcast qu'on peut dire à nos auditeurs, allez réécouter cet épisode pour
Ouais.
plus d'informations. Bref, c'était pour toutes ces erreurs récentes que Tywin avait envoyé Tyrion. De plus, Joffrey a l'air de se sentir trop à l'aise avec sa mère. Il sait qu'elle ne le châtiera jamais. Alors peut-être que la présence de Tyrion pourrait changer la donne.
Parce que on a déjà vu, Tyrion lui a déjà mis quelques gifles.
Ah, est-ce que c'est dans le livre ça ou c'est dans la série? Est-ce que je me souviens dans la série, dans le livre, je ne m'en rappelle
Si, si,
plus.
si, 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 il lui dit. Si, 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 dans le livre.
Ouais?
Je me souviens, ouais.
C'est possible, hein. Après, est-ce que ça va vraiment changer le comportement de Joffrey, la présence de Tyrion? Ça, j'en suis pas. Surtout que maintenant que Joffrey est le
Maintenant qu'il est
roi,
roi,
ouais.
c'est chaud, hein.
Avant-dernière question de Tyrion vers Cersei, qui a tué Jon Arryn? Mais de ceci, Cersei ne semble visiblement pas au courant. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous situer par rapport au meurtre de Jon Arryn, où on en est là à peu près?
On sait que c'est Varys avec les larmes de Lys, probablement. Pourquoi? Parce qu'il s'apprêtait à découvrir la vérité sur la descendance, enfin sur les origines de Joffrey.
Oh, il l'avait déjà découvert.
Ouais, parce qu'il allait tout balancer, quoi.
Ouais.
Plutôt parce qu'il allait tout balancer. Et pour éviter un peu que le royaume s'entre-déchire sur cette histoire. Mais du coup, on voit que Cersei, elle est un peu perdue aussi sur cette histoire.
Ouais. Justement, c'est ce que j'allais écrire, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. C'est que sachant que en plus le père Stark pensait que c'était elle qui avait manigancé son meurtre, car l'ancien seigneur des Aériens avait découvert que elle et Jaime couchaient ensemble et que les enfants n'étaient pas de Robert. Et surprise pour le lecteur, Tyrion est au courant de cela. Alors j'écris surprise entre guillemets dans mes notes, parce que bon, Tyrion a l'air tellement malin que ça serait surprenant qu'il serait pas au courant que Jamie et Cersei couchent ensemble, mais bon.
Oui, je pense il a cramé même devant leur, même pendant le, leur adolescence ou un truc comme ça. Mmh. À mon avis, il devait avoir cramé depuis longtemps.
Mmh. Dernière question de Tyrion. Comment s'y était pris Cersei afin de tuer Robert? Alors ça, le lecteur l'avait appris dans l'ultime chapitre d'Eddard de AGOT, lors de sa conversation avec Varys, que Cersei n'avait pas volontairement tué Robert, mais Lee avait aidé en lui servant un vent plus corsé que d'habitude. Donc si le sanglier ne l'avait pas tué, ça aurait été une chute.
Et... mais je suis surpris quand même qu'elle ait juste forcé sur la boisson et pas mis un poison pour le buter à coup sûr, parce que... Sérieux, vu comment c'était imminent le danger Eddard...
Non, parce qu'à ce moment-là, elle était pas au courant.
Ouais, elle était pas au courant. Bah, c'est vraiment ça. Oui, on avait dit quoi, ouais, comment elle a fait pour envoyer l'ordre et tout.
Mais je crois pas que, je crois que juste que le timing était parfait. Genre,
ouais, je crois que le timing était parfait en fait. C'est même pas. Parce que moi, au début, j'imaginais plus genre en mode, oh putain, il est au courant, vas-y, faut que je missionne Lancel d'aller vraiment le buter. Mais en fait, il y a eu un timing de ouf. Si ça se trouve, ça fait plus.
Moi, je trouve que c'est un peu un plot hole.
Quoi?
Enfin, je trouve que c'est un peu un trou du scénario. Genre, bizarrement, elle voulait pas le tuer, mais il est mort au moment où on en avait super besoin, quoi.
Ça me rappelle les gens en soirée, genre, qui forcent sur tes verres, tu sais.
Ouais, ouais. Et puis...
Là, elle lui a mis trois fonds de vodka. Trois fonds de vodka pour une dose de jus d'orange.
Ouais, pour bien que ça... Non, mais elle a dû être... Non, je crois qu'on a déjà parlé, mais elle a dû être vraiment saucée quand elle a appris que Robert était mort, quoi. Vraiment, genre, en mode, ah, juste au bon moment, quoi. C'est... Non, moi, ça me... Tu sais, je crois que c'est un peu comme un autre truc de scénario. C'est... Tu sais, on avait parlé, mais comment Ned, il a su que Jaime et Cersei, ils couchent ensemble. En fait, que Ned sache que les enfants de Robert soient illégitimes, ok. Mais comment il a su que c'était avec Jaime que Cersei les avait eus, ça... Alors ça, c'est entre les mains de Dieu. Hein. Alors
ça... Ça aurait pu être n'importe qui de blond.
Ouais, non, mais...
ou de je sais pas, de châtain ou je sais pas quoi.
Non, mais dans cet enchaînement de chapitres, hein, la mort de Robert et juste avant, voilà, la découverte de l'inceste, moi, je trouve que c'est très facile quand même. Quittant sa sœur, Tyrion se rend ensuite à l'auberge de l'Enclume Brisée, gardée par les Manteaux Rouges, la garde de Lannister présente au Donjon Rouge, et à Port-Réal, avec comme capitaine un homme du nom de Villard. Je sais pas si on dit Villard ou Vaillard. Je dis Villard. Hein. En passant, devant toutes les têtes que Geoffrey avait fait piquer et plonger dans le bitume, Tyrion ordonne au capitaine Villard de les confier aux Sœurs du Silence. Oui, mais est-ce que tu pourrais rappeler un peu ce que c'est les Sœurs du Silence?
C'est un peu les... c'est les pompes funèbres.
Exactement. Les pompes funèbres de Westeros. Refusant au départ, car c'était Geoffrey qui les voulait là, le capitaine Villard s'y contraint finalement sous la menace de Tyrion. En passant dans la ville de Port-Réal, Tyrion fut surpris d'à quel point l'ambiance avait changé depuis son départ. Elle était maintenant sombre, lugubre, remplie d'insécurité. Et surtout, la pauvreté transpirait. Le capitaine Villard lui en apprit la cause. Les routes étaient coupées à l'ouest comme à l'est, et plus rien ne venait du Conflans ou de Haut-Jardin. En réponse, Cersei avait accentué la garnison des effectifs du guet, construisait des engins de guerre et avait même commandé aux alchimistes 10 000 pots de feu grégeois. Alors Guillaume, est-ce que tu peux parler à nos auditeurs de ce qu'est le feu grégeois ou que de ce que tu comprends ce que c'est?
Ça a l'air d'être un peu comme du napalm, quoi.
Mm-hmm.
C'est une substance hautement inflammable ou explosive.
Ouais. Ouais, bah quand je fais la recherche sur Wikipédia, ça dit que c'est même ça s'enflamme même au contact de l'eau, genre.
Ouais, c'est plus que, je sais pas, un mélange entre nitroglycérine et napalm, tu vois, explosion et inflammable. C'est inflammable et explosif.
Ouais. Bah, Tyrion avait une réserve sur ce dernier point d'ailleurs, car autant de feu grégeois pourrait réduire Port-Réal en cendres. D'autant plus que, d'après lui, le feu grégeois était assez traître. Donc, ouais, un truc assez difficile à contrôler. D'où le fait que, justement, peut-être des alchimistes soient une caste spéciale réservée à la fabrication et à la gestion de ce feu, quoi. Mais bon, Cersei, elle a l'air assez inconsciente pour que Tyrion dise que c'est la dose suffisante pour exploser la ville de Port-Réal, quoi.
Putain. Donc Cersei, elle est pas nette, hein. Il y a des moments, elle est vraiment pas nette.
Ouais, non, mais ça se voit, là, elle est un peu... Genre, tu vois, elle est un peu parano sur les bords, dans le sens, il me faut une armée, on va être assiégé de tous
combien,
les côtés.
Genre, on a besoin de feu grégeois à combien? 10 000! Je sais pas, c'est 10 000, c'est un bon chiffre.
C'est un chiffre assez rond.
C'est pire.
Et pour payer tout cela, Cersei avait une nouvelle fois fait appel à Littlefinger, le grand Argentine n'étant jamais à court de ressources monétaires. Mais cela l'a encore une fois endetté la couronne. Même si Littlefinger avait mis en place une taxe à l'entrée de la ville, et comme nombre de concitoyens de Westeros fuyaient la guerre afin de trouver un endroit sûr, cela constitue une bonne rentrée d'argent. Et franchement, ça c'est vraiment une taxe de fils de pute, genre. Non, mais c'est exactement comme si on disait « Oui, maintenant vous avez plus le droit de circuler en voiture, mais il y a une taxe pour aller à vélo et les piétons, quoi. » Non, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il provoque la cause pour laquelle la taxe a été mise en place.
Ouais. Ouais, bah... Là, tu m'étonnes que, genre, à mon avis, là, les bas-fonds de Port-Réal, ça doit ressembler à un bidonville, genre.
Mmh. Genre. Ouais. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Culpussier.
Culpussier, ouais. Je sais plus, la porte de la Gadoue.
Mmh. Ouais, non, vraiment. Bah, il doit y avoir la masse d'habitants. Ça va être assez insalubre, en fait.
Bah, déjà, je pense déjà, tu vois, les pauvres, ils sont venus parce qu'ils ont tout perdu.
Mmh.
On arrive, on leur prend le genre de l'argent, c'est tout ce qui reste, tu vois. Genre, le peu de choses qu'il leur reste pour manger, ça doit être horrible.
Mais en plus, il est dans une scène du chapitre 3, on dit que oui, ils vendent des rats maintenant parce qu'ils ont plus de viande, des trucs comme ça. Genre.
Rats frais.
Ouais, ouais, rats frais. Rats frais. D'ailleurs, ça a été un peu supprimé. Bon, de toute façon, ça va revenir, hein, mais là, ça a été supprimé. Tu vois, les dialogues un peu mal écrits, genre, des habitants du peuple. C'est comme on l'avait vu et tout.
Ah ouais?
Bah, je crois pas les avoir lus, ou ça m'a pas choqué, oui, en tout cas.
Ils ont pas beaucoup parlé, là.
C'est vrai aussi. Mais vraiment une bonne taxe de fils de pute, quoi. L'état de vie de guerre, alors... et ça me tue. Tu provoques une guerre, après tu dis oui, mais maintenant, comme il y a la guerre, ah, faut bien te payer, quoi. Ça va pas se payer tout seul. Non, mais... On rappelle que dans le premier tome, on avait appris que la couronne devait 3 millions de pièces d'or aux Lannister et 3 millions d'eau à d'autres créanciers. Les Tyrell, la banque de fer de Braavos et les cartels de Tyroche.
Le grand Septon.
Même au grand Septon, oui. Et du coup, je
en plus, lui, il a le seum parce que, genre, ils ont souillé le sang.
Grave, mais le grand Septon, il doit avoir la dent contre la couronne, hein.
Non, il doit être deg. Il doit être dégoûté.
Mais du coup, je vais te demander, Guillaume, est-ce que tu penses que ça aura une importance à un moment donné, toutes ces dettes qu'on en parle, on a l'impression que les dettes, elles s'accumulent, mais que, bon, tu vois...
Ah bah, c'est très possible.
Mmh.
C'est très possible que... Bah, c'est très possible qu'à un moment donné... Enfin, ça pète, quoi. Genre, la banque de fer, je pense qu'ils sont très puissants.
Mmh.
Des cartels... Les cartels aussi, genre, à un moment...
Ouais.
Déjà, même ils vont, je sais pas, ils vont cesser déjà de les approvisionner.
Mmh.
Après, là, Littlefinger, il a l'air très très chaud pour trouver de nouveaux créanciers. Mais
ouais, si Littlefinger un jour il disparaît, ce sera un peu la merde, je pense. Hein.
Ouais. Non, c'est sûr qu'il va y avoir, un peu une.
Non, mais il va y avoir des conséquences à tout. C'est pas de l'argent magique. L'argent magique n'existe pas.
Bon, déjà, les Tyrell, bon, il a plus besoin de les rembourser.
Oui.
Ça, c'est bien.
Mais donc, là, je sais pas ce qui enquêterait le plus entre la banque de fer de Braavos et les cartels de Tyroche.
La banque de fer, à mon avis, je sais pas.
Après, tu dis, il doit se ramener aux Lannister, mais de toute façon, c'est les Lannister qui sont en manette. Donc, en fait, c'est comme si, enfin, ils avaient une tête envers eux-mêmes, quoi.
Ouais.
Donc on peut déjà enlever 3 millions, il reste 3 millions à rembourser, mais vu qu'ils empruntent encore et encore, là... Arrivant à l'auberge, Tyrion fut ravi d'y retrouver Shay, mais quelle ne fut sa surprise quand il vit qu'elle était accompagnée de Varys. Le maître des chuchoteurs encore frappé. D'ailleurs, Tyrion interprète sa présence comme un avertissement. « Vous vouliez la cacher, mais je savais qui elle était, où elle était, et me voici. » Tu vois, je vois ça un peu comme des vrais films de Scorsese où tout se passe par le regard, tu vois, un peu ouais. Comme dans Hits. Les mecs de Robert De Niro, Al Pacino, juste ils se regardent. Vrai film de gangster. Et voici le point comète du chapitre.
Ça fait vraiment Peaky Blinders en mode. J'arrive, je pose mes couilles, j'arrive sur ton territoire, tu vois.
Ah, Varys,
Ouais.
Ouais.
Enfin, je pose mes couilles.
Ouais.
En façon de parler.
Et donc, voici le point comète du chapitre. Parce que oui, pour chaque personnage POV, on aura son interprétation de la comète, sa vision de celle-ci. Donc au départ, je trouvais que c'était un petit truc, c'est pour les deux propres murs, mais en fait, non, ça revient vraiment à tous les chapitres.
Ouais, ouais, quand je l'ai lu, là, j'ai fait encore. Comme je t'ai dit, ça veut rien dire, c'est juste l'interprétation des personnages qui est importante, quoi.
Et dans mes notes, j'ai écrit « Dommage qu'on n'ait pas de jingle », vu à quel point ça revient pour tous les personnages. Mais peut-être que j'en crée un en montage. Donc, ouais, je me dis à la fin, je vais peut-être répertorier toutes les significations qu'on a depuis le début, ça pourrait être intéressant. Bref, d'après Varys, le petit peuple a surnommé le messager rouge, qui viendrait annoncer carnage et incendie. Bon, ça signifie beaucoup et pas grand-chose non plus. Si ce n'est que ça annonce une catastrophe quand même, quoi. Varys quitte alors Tyrion en lui posant une énigme. Et je me suis dit qu'elle était tellement cool que j'allais la faire écouter à nos auditeurs. Donc Guillaume, tu veux la lire ou...
Ok. Dans une pièce sont assis trois grands personnages. Un roi, un prêtre et un type archi-cousu d'or. Entre eux se dresse un reître, un petit homme du commun et d'intelligence ordinaire. Chacun des trois autres lui enjoint de tuer ses compères. Obéis-moi, dit le roi, car je suis légalement ton chef. Obéis-moi, dit le prêtre, je te l'ordonne au nom des dieux. Obéis-moi, dit le riche, et tout cet or t'appartiendra. Qui survit, qui meurt selon vous?
Alors du coup, avant ça, je vais te poser la question. Toi, tu penses que c'est quoi la réponse de cette énigme?
Bah, il n'y a pas de réponse. Enfin, justement, l'interprétation, c'est genre... Enfin, je pense que l'interprétation à retenir, c'est que... Enfin, en tout cas, la mienne, c'est que on a beau avoir trois... Enfin, des individus qui sont très puissants, qui ont tous une raison de donner des ordres, mais... enfin, le vrai pouvoir, c'est celui du peuple, c'est celui de... C'est, enfin, ça dépend des valeurs et des... Ça dépend juste, en fait, à qui le peuple va prêter allégeance, en fait.
Mmh.
En fonction de ses valeurs. Est-ce que ils ont des valeurs plus politiques, plus religieuses, plus ou ils sont juste...
pécuniaires.
Ouais, ou juste attirés par l'argent.
Mmh. Non, tu voudrais dire que en gros, c'est personne, parce qu'en fait, ça tout dépend d'à qui le petit peuple prête le pouvoir, quoi.
Oui.
Ok. Shay, la prostituée Tyrion, commence par répondre que c'est le riche qui survit.
Donc on voit, elle on voit tout de suite, c'est quoi sa religion, c'est l'argent.
Ouais. Mais Tyrion répond que tout dépendrait du reître. Donc c'est un peu ce que tu dis, toi, Guillaume.
Oui. Un fanatique religieux, il va obéir au prêtre et pas à l'argent. Et, tu vois, un soldat vraiment éduqué peut-être dans une famille guerrière ou un truc comme ça, ce sera sûrement le roi.
Mmh.
Et un vrai reître, genre comme Bronn, ce serait sûrement l'argent.
Mmh. D'ailleurs, en parlant de Shay, dans l'ultime chapitre de Tyrion de AGOT, Tywin lui avait interdit de l'emmener à la cour, mais Tyrion ne voulait visiblement pas écouter cet ordre. On apprend que, effectivement, dans ce chapitre, pour contourner l'ordre de son père, il ne l'avait pas emmené à la cour du Donjon Rouge, mais lui avait offert une maison avec des gardes et des serviteurs dans la ville de Port-Réal. Vraiment le truc, voilà, ça, c'est vraiment un truc d'enfant, genre, pour contourner la collision. Ouais, j'ai pas emmené littéralement à la cour du Donjon Rouge, mais bon.
Bah, c'est déjà mieux quand même que de faire traîner une prostituée en plein milieu de la citadelle de Bigorre, quand même.
Ouais, que de l'afficher en plein jour.
Je pense que. Bon, Tywin, il serait pas content, mais au moins, il se dirait, bon, au moins, la putain s'affiche pas devant toutes les familles importantes et tout, quoi.
D'ailleurs, fun fact. À propos de Shay, est-ce que tu savais que l'actrice...
Elle a fait du cul?
Ouais.
Ouais.
Ah, c'est lourd, ça. Comment ça c'est... Tu vois c'était quand même un fun fact à placer. Je l'ai appris comme ça en lisant des articles, mais je savais absolument pas.
Tu savais pas?
Ah, pas ouais du tout. Mais je me demande comment ils ont passé le casting du coup. Enfin, je veux dire, est-ce que tu vois, est-ce qu'ils sont passés par
Non mais j'avoue, c'est un truc de bâtard quand même.
Non, mais
tu castes une prostituée, tu vas non. chercher une actrice de cul.
Après, peut-être qu'elle s'est détournée vers, tu vois, un acting plus traditionnel à ce moment-là, mais c'est quand même cocasse.
Je t'ai jamais vu dans un autre film.
En conclusion de ce chapitre, après avoir couché avec Shay, Tyrion pensa qu'il n'apprendrait jamais de ses erreurs, qu'il avait déjà commis cette faute avec Tisha, et qu'il était fou de la reproduire. Alors, est-ce que, Guillaume, tu peux rappeler l'histoire de Tisha?
C'est l'histoire où Tyrion a perdu son pucelage.
Mmh.
Donc, en gros, Jamie avait payé une prostituée pour que Tyrion perde son pucelage. Il s'est marié avec le lendemain.
Mmh.
Et Tywin, il était fou furieux et a décidé de forcer Tyrion à regarder Tisha se faire prendre par toute la garde Lannister. Il lui a même forcé de coucher avec après.
Ah ça, justement, on en avait dit non, je crois. Mais lui, c'était pas arrivé, finalement.
Ah bon ?
Ouais.
Ok.
Mais justement, en plus, c'est toi qui l'avais dit. Mais justement, pour moi, j'avais dit que c'était chaud, parce que je comprenais pas. J'avais compris ça, et toi, tu m'avais dit non, justement, je pense qu'il a juste dû regarder.
Ouais. Ouais, après, je sais plus, parce qu'il lui donne une pièce d'or, une pièce d'argent ou un truc comme ça ouais. pour chaque garde, et une pièce d'or... Non,
c'est ça. Mais du coup, ouais, on s'est dit, peut-être que c'est la pièce d'or, mais pour avoir couché avec elle avant, quoi, pour ouais, son mariage ouais. et tout, tu vois.
Ouais.
Mais en gros, c'est vrai que Tyrion, bon, on pensait que, voilà, il serait vacciné contre le fait d'utiliser des prostituées, mais visiblement non. Visiblement, voilà, la leçon n'a pas été assez forte.
Ouais.
Tyrion confie à Shay en fin de chapitre qu'il est venu ici pour quelque chose à quoi Cersei est loin de s'attendre. Rendre justice. On voit comment tu interprètes le fait que Tyrion vienne de réveiller rendre justice.
Sur, j'imagine un peu rendre justice comme déjà Littlefinger là. Hein. Ensuite peut-être, je sais pas, essayer de rattraper du mieux qu'il peut le coup de Lord Eddard quoi.
Mm-hmm.
Mais je pense que bon, il a pas 3000 trucs. Je pense qu'il va essayer de négocier un peu l'échange Sansa-Jamie.
Mm-hmm.
Et avec des excuses, un mot d'excuse, genre on est désolé. On est désolé.
Moi, je l'appelle plutôt aussi comme. Je pense qu'il est vraiment venu pour littéralement rendre justice. Dans le sens où sa vie, elle était tellement injuste et tout ce qu'il voit autour de lui. Que pour une fois qu'il a du pouvoir.
Ah, il va prendre un peu sa revanche sur la vie et ouais. montrer à quel point il peut être bon dirigeant.
Ouais, c'est ça.
Comme ça que tu le vois. Je sais pas si on peut appeler ça rendre justice, je sais pas. Mais ouais,
Non, mais par exemple, tu vois que Tyrion, il a à cœur, il peut avoir à cœur l'intérêt des gens. Comme, je crois quand il était venu rendre visite à la garde de nuit, il avait promis à Jorah Mormont de parler du sort de la garde de nuit à la cour, par exemple, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais. Ouais, ok, de... Vraiment, il veut devenir un bon dirigeant pour...
Okay. Même, et je pense qu'il y a un petit côté où, bon, déjà, parce que voilà, il aime la justice, mais il y a un petit côté où, comme tu dis, il veut prendre la revanche sur les autres, quoi. Il veut leur montrer que, voilà, il veut contrecarrer leur plan, entre guillemets.
Ouais.
Pour terminer cet épisode, je pense que ça, c'est un vrai... exemple de la différence entre la série et les livres à partir de maintenant. Je pense que c'est autant plus de faire ce chapitre de Clash of Kings, en tout cas même à partir de maintenant, parce que là il y a une vraie différence de profondeur. Sur le tome 1, on la voyait absolument pas, enfin ou presque pas. Sur le tome 2, rien que ce chapitre, tu vois la différence entre la série et les livres. Genre j'ai revu la scène du livre où Tyrion entre dans la salle du conseil pour retrouver Cersei et les autres là. En vrai, ils ont enlevé 80% des dialogues.
Mmh.
Genre, vraiment, c'est affolant. Tu te dis qu'ils introduisent plus de choses, ils parlent plus de l'univers. Le truc, par exemple, de Varys,
ouais.
qui c'est lui qui est l'instigateur du renvoi de...
De Baristan Selmy, ouais.
Ouais,
là, dans la série, c'est juste un caprice de Geoffrey.
Donc voilà, on a terminé pour cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en suit. Et vous pouvez noter ou commenter sur les différentes applications de podcast. On vous retrouve, je sais pas quoi, mais on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
À la prochaine.